mais la ville. Défonce les salés et puis hop, l'emballement des éléments extérieurs.
What happened? How did this happen? Why did it happen? Who authorized it? What was going on here?
110% naturally dirty.
VO, culture et société, en version originale.
What's going on here?
Bonsoir à tous, merci d'écouter Aligre FM sur le 93.1. Je suis très heureux de vous retrouver comme chaque samedi à 19h pour une nouvelle édition de version originale. À mes côtés, Charlib pour une émission dont le thème est la poésie. La poésie de Rodrigue Marquez de Souza est l'objet de l'émission de ce soir. Nous vous proposons une série de 3 émissions avec le poète Rodrigue Marquez de Souza. Dans cette première émission, ainsi que dans la deuxième, qui sera diffusée samedi prochain, vous pourrez écouter des entretiens enregistrés à son domicile au printemps 2017. Lors de la 3e émission, que nous vous proposerons à la rentrée de septembre, nous aurons le plaisir d'accueillir Rodrigue Marquez de Souza avec nous, donc en studio. Né en 1970, Rodrigue Marquez de Souza est peintre et poète. Chez lui, ce sont deux activités créatrices qui n'ont de cesse de cheminer l'une à côté de l'autre. Elles se nourrissent l'une l'autre. C'est ce qui transparaît notamment dans la pratique régulière du livre d'artiste. Rodrigue Marquez de Souza est tour à tour peintre pour des poètes ou poète pour des peintres. Il commence à publier au début des années 2000. Il a écrit une dizaine de livres de poésie, parmi lesquels on peut citer des titres comme « Nombre »,« Fermoir »,« Punir »,« Imaï oracle »,« Savoir d'écartement »,« Istanbul embrasement ».
À la vue de cette œuvre, on est frappé par la grande cohérence du questionnement qui l'anime et qui porte sur le corps. En effet, si sa peinture donne à voir des organes d'encre qui s'écoulent sur la feuille, sa poésie, par le biais d'une évocation obsessionnelle de l'os, de la peau, de la salive, explore les entrailles de la langue, langue-organe tout autant que langue poétique. On peut distinguer deux manières dans cette écriture, l'une que l'on pourrait intituler selon les mots mêmes du poète le « fer sec », et qui caractérise les premiers recueils et qui repose sur une poétique du « heur » entre les mots, qu'on peut très bien entendre dans le titre suivant « Nu de tête être ». On y entend comme une sorte de collision lexicale. La tonalité y est sombre, on est dans la représentation du corps mort et du corps morbide. À partir de « Que n'ai-je fui l'abîme » en 2013, la forme s'apaise, devient plus narrative, et dans les derniers livres, et c'est l'entrée de la lumière, qui va même jusqu'à l'éblouissement. C'est le corps lucide. Le questionnement s'érotise et s'articule autour d'interrogations comme « Le langage poétique peut-il rendre la saveur du désir »« Peut-il restituer l'intensité de l'instant vécu ?» et « Comment sortir du conflit entre le corps et la mentalité ?»
Donc au cours des entretiens que nous vous proposons, Rodrigue Marquez de Souza fera allusion à des poètes, à des peintres. Nous vous invitons donc à vous rendre sur la page Facebook de l'émission Version Originale pour avoir des références et des précisions sur ces noms. Charlie et moi, nous remercions chaleureusement Philippe Benkimoun qui a réalisé l'enregistrement de ces entretiens ainsi que le montage des différentes séquences. Dans cette première séquence que vous allez écouter, le poète évoque la jeunesse de son écriture et de sa peinture. Écoutons Rodrigue Marquez de Souza.
La musique, oui, mais la musique, ça a été là aussi un chemin de l'adolescence avec tout ce qui était post-punk. C'était vraiment une période des années 80 qui était quand même assez vivifiante pour la musique. Les choses changeaient, bougeaient, il y avait des violences qui étaient quand même agréables. Ah, j'écoutais vraiment du post-punk, un peu grâce à Michel aussi, qui a mis entre mes mains des disques, qui m'a offert des disques que sans doute j'aurais pas trouvé tout seul, comme les premiers Suzy and the Banshees, Joy Division, les premiers. Même les New York Dolls, les Stooges, des groupes comme ça où vraiment c'était énergique et contestataire. si je puis dire, moi je me suis intéressé dès l'adolescence à l'art contemporain, ou enfin, ouais, en tout cas à l'art moderne, donc on y est confronté assez rapidement. D'ailleurs, bon, Picasso primitif en ce moment au Quai Branly, bon, c'est un exemple qui est mal fait, mais c'est un exemple. Donc on y est confronté, qu'on le veuille ou non, avec la peinture du XXe siècle et la sculpture du XXe siècle. Mais moi, c'est par hasard, hein. C'est parce que je travaillais près d'une galerie d'Africains, d'art africain, avec une femme, Claudie Lebas, qui la dirigeait et qui avait une manière de présenter d'abord des ethnies assez peu communes, assez peu respectées par les collectionneurs bourgeois, et qui avait une manière d'en parler qui m'a plu. Et qui m'a donné envie de commencer à recueillir des objets et à les laisser avec ces présences fortes autour de moi. Parce qu'il y a 20 ans, même au-delà de 20 ans, j'ai commencé à écrire, je devais avoir autour de 14 ans, des choses comme, enfin, à peu près. J'avais envie d'écrire, je voulais écrire parce que j'avais lu des livres, un peu j'imagine comme tout le monde, et que ça donne une sorte d'effervescence qui donne envie d'écrire, même si on n'a pas du tout les épaules pour se confronter aux œuvres qui nous ont fascinés. Mais peu importe, ça a commencé comme ça, sans doute de manière un peu artificielle, mais aujourd'hui, le mouvement est vraiment naturel. C'est un mouvement dans la vie, qui se déclenche pas. Parce qu'au début, j'étais vraiment de l'école Patrick Watteau, et il faut vraiment, ce que je renie absolument pas, hein, il faut absolument rogner le texte jusqu'au plus exact, d'une certaine façon, et au plus... exact, c'est quand même le meilleur mot. J'ai l'impression qu'à un moment donné, il y a quelques années, l'écrit a pris le pas, y compris chez l'autre, chez celui qui lit ou qui regarde, sur la peinture. Et c'était à une époque de la peinture où moi-même, j'étais moins actif. Aujourd'hui, c'est quand même un petit peu différent. Je ne sais pas. La venue de l'écriture poétique est quelque chose de quand même assez mystérieux. Il faudrait quelqu'un de peut-être scientifique ou d'assez proche de quelqu'un qui écrit pour essayer de trouver les origines de la parole poétique. C'est vraiment un grand mystère. Il y a une sorte de... On en revient au poéine grec. Est-ce que c'était une prière? On n'est pas sûr. Il y a quelque chose de sacré dans la poésie que moi, j'affectionne. Il y a un mouvement toujours vertical dans un sens ou dans l'autre. Oblique, si possible, pour être un petit peu transgressif. Ce qui réveille quand même beaucoup l'esprit. Le corps se forme vraiment naturellement. Il s'entraîne lui-même... C'est vraiment intéressant à étudier ces mouvements du poème quand ça surgit d'on ne sait où. C'est une énigme, hein, pour moi aussi, et souvent je m'interroge sur la venue du poème. Mais vraiment, c'est trop difficile de distinguer les multiples origines que peuvent avoir le poème. Je suis vraiment dans la pensée. Dans le mouvement de la pensée, avec, j'allais dire l'utilisation de la mentalité, mais telle que je la conçois moi, qui s'organise un petit peu toujours de la même façon. On en revient à au fait que le corps soit premier, qu'il soit premier avant la pensée, qu'il soit premier avant la parole. Si on s'arrête longtemps en luttant contre les habitudes de la pensée occidentale venues des Grecs, encore une fois, qui nous empêche de comprendre que le corps est premier, l'écriture et la pensée elle-même est vraiment bouleversée. Et finalement, assez peu d'écrivains manifestent cette origine du poème. Oui, oui. Mais à l'époque, j'avais un ami qui était beaucoup plus âgé que moi, qui était en fait le compagnon de la meilleure amie de ma sœur, avec qui je passais beaucoup de temps, et qui était prof de lettres. Et peintre, lui-même. C'est-à-dire qu'il avait, gravité autour de supports surface dans les années 60, notamment autour de Denis Godefroy, qui était un de ses amis. Et du coup, il avait un atelier chez lui. Donc cet homme, Michel Vergne, il a mis dans mes mains d'abord, parce qu'il était prof de lettres, des livres que sans doute tout seul, j'aurais pas trouvé. Et il a peint devant moi, il avait un atelier. Donc moi, quand j'ai commencé à peindre plus sérieusement, on a peint dans le même atelier. Alors des choses tout à fait différentes, hein, on n'était pas du tout sur la même... Mais il y avait une sorte d'amitié forte qui nous... En tout cas, qui, moi, m'a beaucoup, beaucoup marqué dans mon adolescence et puis dans le début de ma jeunesse. Je me souviens qu'il m'avait donné un recueil de Max Jacob, mais c'est la période surréaliste et c'est une période d'écriture qui ne m'intéresse pas beaucoup, le surréalisme. Contrairement à Dada, mais encore que beaucoup moins les écrits que... l'esthétique, enfin, la peinture, les dessins, la gravure, etc. J'ai cherché pour moi-même, récemment, quel livre il avait mis entre mes mains, et je n'ai pas retrouvé. On parlait quand même beaucoup de Michaud, ce qui n'est pas rien. À l'époque, il était assez difficile de trouver un livre d'Henri Michaud. Et je me souviens avoir eu beaucoup de difficultés à trouver Épreuve exorcisme, évidemment, qui était un choc, mais à peu près comme toute l'œuvre d'Henri Michaud. Et ma sœur Virginie a été longtemps aussi ma première lectrice. La compagne de mon amie Isabelle lisait aussi. Michel, lui, me donnait des retours sur les premiers poèmes que j'écris. Je suis pas sûr, je me souviens pas très bien. Je me souviens que Michel pensait que ma peinture à l'époque était plus intéressante que mon écriture. Il était plutôt sévère avec mes premiers poèmes, il a eu raison, je pense. Pourquoi pas ? Enfin, j'étais vierge face à la poésie. Sans doute c'était mauvais, il a eu raison. Il était sans concession. Je remercie pour ça. Heureusement tout ça est détruit. Mais j'ai pas beaucoup de souvenirs, j'ai pas non, de retour qu'il me faisait. Je sais que c'était sévère et que ça, c'est sûr. Je pense que j'ai eu de la chance de le rencontrer alors qu'il avait vraiment des choix très marqués en littérature, qu'il était sans concession lui-même, même si ses concessions n'étaient pas les mêmes que les miennes aujourd'hui. Mais effectivement, on est dans un domaine politique, là. Hein. On ne peut pas... même un domaine pasolinien, au meilleur sens du terme. Dans le monde d'aujourd'hui, si la poésie fait des concessions, elle est mauvaise. Et j'ai tout de suite senti, parce qu'il avait l'habileté et l'amitié de l'exprimer ainsi, que c'était... j'allais dire pour moi, même pour mon bien, ça paraît un peu stupide, mais les critiques aussi sévères que j'en ai le souvenir m'ont jamais découragé. C'était une énergie positive, c'était jamais quelque chose de décourageant, même en ce qui concerne la peinture ou en ce qui concerne l'écriture. Non. À l'époque de Nombre, j'avais certainement sous l'influence de Paul Celan, une influence que je j'accepte vraiment au plus haut degré et qui me bouleverse toujours, hein, à tel point que j'ai du mal à relire Paul Celan parce qu'il a une influence sur moi difficilement contrôlable, je dirais. À l'époque de Nombre, j'avais vraiment beaucoup travaillé longtemps sur les camps de concentration. Et aussi avec Nelly Sachs, Patrick Watteau avait une écriture qui peut s'apparenter au même sujet parfois. Donc je pense que le thème du camp était plus marqué historiquement dans Nombre. Quoique j'ai essayé d'avoir une certaine liberté, bien que ce soit un texte étroit, pour que ça puisse parler d'autre chose, que ça puisse pas être contenu dans la poésie du concentrationnaire, qui est pas souvent bonne d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, c'est un thème aussi pour des raisons personnelles qui a jalonné mon existence, puisque ma grand-mère maternelle est une juste, qu'elle a sauvé au moins un enfant juif de la déportation, donc c'est quelque chose qui était présent de façon familiale, j'allais dire. Donc j'y m'y suis intéressé de façon assez naturelle, bien que non concerné personnellement. L'influence de Zoran Mušić aussi a été très très forte, avec cet immense paradoxe qui me poursuit aujourd'hui encore, qui m'interroge vraiment profondément, et qu'une image d'une si grande terreur puisse être aussi belle. Et ça, c'est vraiment un très très grand paradoxe pour l'esprit, que je cherche pas à résoudre, mais qui est quand même une énigme, quelque chose sur lequel l'esprit bute. Quoi qu'il en soit, donc naturellement dans mon écriture, ça a été un thème donc historiquement présent pour Nombre. Pour Connais-je fuis l'abîme, j'ai du mal à l'analyser aujourd'hui. Parce que c'est une écriture qui s'est effectivement simplifiée, formellement en tout cas. Et le thème du coin est présent. Je l'explique comme un chemin naturel qu'un thème, qu'une idée personnelle peut faire chez un auteur. J'en sais pas plus. Je pense d'abord découvrir la poésie de langue arabe contemporaine, parce qu'elle est quand même assez bien traduite, grâce à Bernard Noël, merci Bernard notamment. Mais en tout cas, elle m'a tout de suite ému. Ensuite, pour les textes sacrés, Patrick Watteau m'a mis entre les mains des textes de mystiques, principalement catholiques, mais qui m'ont donné envie d'aller voir ailleurs. Et j'ai été tout jeune adolescent déjà, je voulais apprendre l'arabe, on ne m'a pas permis de le faire, mais en tout cas, j'étais attiré par ces civilisations-là, y compris déjà en réaction aux pensées nauséabondes ambiantes qui commençaient, en tout cas, dont on sentait bien déjà l'empreinte dans les années 80 ou 90. Et donc, je suis allé chercher tout seul, ou par des hasards, ou par des conseils, mais plutôt tout seul, cette parole-là. Elle est bien traduite, mais on en parle assez peu. Elle est assez méconnue. Heureusement, certains éditeurs traduisent même encore les textes anciens. On a des nouvelles traductions, des choses comme ça. C'est quand même intéressant. Et Rumi, c'est pour moi vraiment fondamental. Vraiment. Moi, je reste silencieux et bouche bée devant la beauté de la parole de Rumi ou d'autres, hein, l'Hadj, et qui ont été traduits, bien que ce soit traduit par exemple au 19e par des universitaires dont on aurait pu craindre la censure, et finalement ils ont été assez justes avec avec le texte. Donc on a des textes relativement fidèles de façon précoce, et c'est bien. Et puis la langue arabe en tant que traducteur depuis maintenant quand même 3 ans avec Mohamed Bénis m'apprend une liberté encore plus grande. Elle a vraiment une amplitude que le français n'a pas, là, pour le coup. Et qui donne un écho à ma langue. Je le sens. Je sens une volonté d'ouverture. C'est-à-dire que la langue arabe a des champs sémantiques qui sont vraiment incroyables, qui sont pratiquement incompréhensibles pour moi. Et ça, ça se fait grâce aux échanges que j'ai avec Mohamed, qui depuis plusieurs années nourrit aussi ma poésie. Un mot ou un groupe de mots dans une phrase, suivant le contexte, suivant le mot qu'il précède ou qu'il suit, peut avoir vraiment une possibilité de sens qu'on ne peut pas comprendre en tant que français cartésien. C'est pas possible. J'ai pas d'exemple précis, mais j'étais vraiment à plusieurs reprises incrédule face à la possibilité de sens du même mot dans un contexte différent ou même dans une intention différente. C'est incroyable pour le français. Et ça donne des leçons d'ouverture et de liberté. Du coup, on a envie, j'ai envie d'un peu forcer le français à aller au-delà de son habituel carcan. Bien que je le vénère aussi. Hein, mais tout de même, ça donne une perspective que le français ne paraît pas avoir aujourd'hui. Je ne souhaite pas m'éloigner de la culture occidentale. Je la respecte. Elle a une grande importance pour moi. J'en fais partie. Ce serait... Simplement, d'abord, la forme de l'art africain m'émeut. Il n'y a que du corps. C'est du corps sacré. C'est du sang. C'est d'une patine, des couleurs, des formes parfois violentes, parfois douces, toujours assez extrémistes, dont les paradoxes m'émeuvent, enfin, on pourra en parler vraiment longtemps. Ça n'a pas été au début, ça a été vraiment un acte d'amour pour une forme esthétique. C'est après que j'ai découvert, en tout cas partiellement, le caractère vraiment sacré de la communication avec l'esprit des morts, etc. Disons que j'avais été tellement marqué par certaines œuvres, je pense, que j'avais envie de... pas du tout de copier, pas du tout de faire à la façon d'eux, mais j'avais envie de m'y mettre. Et donc je pense qu'au tout début, ça a dû... être artificiel, je sais pas si c'est le bon mot, sans doute pas.
Thank you.
Le musicien iranien, joueur de tar, Darish Talai, sur Aligre FM 93.1. Nous poursuivons l'entretien enregistré en 2017 avec Rodrigue Marques de Souza. Dans cette prochaine séquence, le poète évoque l'expérience de la lecture.
Elle est difficile à décrire. En tout cas, j'essaie toujours de la reproduire à voix haute lors des lectures. Pour cela, je m'entraîne. Ça veut dire que c'est... Lors d'une lecture, c'est pas la première fois que je lis le texte à voix haute. Je le fais une ou deux fois, voire plus, avant, à l'occasion d'une lecture. Mais pour moi seul, non. Et j'essaie toujours de me souvenir à quoi ressemble la lecture interne. Elle est peut-être plus douce ou... Elle a un rythme pas foncièrement différent. Je pense que c'est plutôt une question de ton, une question de chute de la voix, des détails comme ça qui sont pas reproductibles dans le réel. De sorte que c'est presque une interprétation finalement, à chaque fois qu'on fait une lecture à voix haute. C'est jamais vraiment la lecture intime. Bien que ce soit un exercice vraiment... Pour moi, en tout cas, de découverte de l'intimité au sens premier, c'est-à-dire de laisser voir l'intimité qui n'est pas si évident. Aussi à cause du sens et que la teneur de mes poèmes ont. Mais en tout cas, c'est un exercice qui m'accapare même corporellement assez fortement. Comme j'ai peur avant, j'ai une sorte de trac, je sais pas tellement comment le nommer. Et donc, dès que je commence à lire le texte, la bulle se forme et j'ai pas tellement d'interaction ou à de rares occasions avec les gens qui sont là pour m'écouter lire. Je suis vraiment dans le texte. Je lis comme ma voix naturellement fait sortir le texte et c'est conforme à l'entraînement que j'ai fait la veille ou le même jour dans la journée, mais c'est jamais conforme à la voix interne et j'essaie pas de retrouver alors la voix interne, ce serait vain. Et puis c'est pas si mal, enfin, que ce soit différent. C'est pas... C'est une interprétation, il faut l'accepter. Énonciation du ventre arabe. Je regarde l'arabe de mon ventre. Ce ne peut être un noun. Quel signe cela peut-il être? Un bas tordu de douleur. Un ottoman dans le sens de la hauteur. Vertical signe de sang. Signe que la douleur se reflète dans la mare de sang sous mon menton, que la rigole de sang existe dans les plis du ventre, que la bordure d'or est réelle, coule, coule, est réelle, coule au bas, dans le bassin réel, coule jusqu'à la grille hantée. Le ventre est toujours plus fort que la mentalité. Et le ventre arabe est doux, si légère la soie du ventre ottoman. Et sur la langue, doux les plis de la chair. La sagesse te fera passer par le fil de l'épée. L'innocence tranchera le ventre. Et jusqu'à l'absence, perpétuera ton éventration. N'est-ce pas éblouissant? N'est-ce pas impur? Les 60 agrafes en dehors de l'âme, et pourtant attachées à l'âme? Les 120 pointes du signe, plantées dans le ventre interdit? « Fus-je mort ? » demanda-t-il. « Non, répondis-je, tu fus solitaire et doux, es-tu parcouru la lande avec les spectres? Aspire le souffle de la meurtrissure? Habitais-je le peuple de la meurtrissure, demandais-je encore? Non, crie le ventre. Pourquoi alors me meurtrir? Pourquoi me faire avaler le même souffle? Tu ne trouveras sens dans le signe du ventre aimé, et pas davantage dans le ventre transfiguré que tu désignes, et pas davantage dans l'absence de ventre. Mais tu suivras des yeux la bordure d'or sombre une seconde fois, des deux côtés du flot de sang, ébloui par les éclats intermittents. Tu lècheras la salive, tu referas le baiser, tu désireras de remordre dans la chair, aussi reléchant les 60 feux. Tu ne trouveras sens dans les courbes de la plaie, ainsi en fut-il de tout temps, ni dans le rythme des bords rouges, ni parmi les violets cousus autour du cygne. Si cependant tu parviens à l'articulation d'un sens, aucune bouche ne pourra le prononcer humaine. Tu ne trouveras aucune bouche. Si après avoir creusé tant dans la chair profonde, tu découvres qu'une bouche t'accompagnait depuis le commencement, si ce n'est ta bouche, alors ferme-lui les lèvres, arrache-lui le baiser sanglant, afin qu'être émis aucun son ne puisse, annonçant le dernier souffle et la pointe du gémissement. Mais la parole ne peut être confondue si tu caresses de tes lèvres le ventre interdit. Tu n'accueilleras de signification que par le commencement du souffle. Peut-être sentiras-tu le tournoiement de l'esprit, recouvrir les torrents de sang et casser les lames de nos guerres, tu étreindras le combattant et tueras l'ennemi visible au toucher de son ventre. Au soir, je fus dans la plaine jonchée des combats. Je fis disparaître les spectres par le sang réel de mes entrailles. Je m'étendis parmi les herbes noircies, et jamais n'articulai le moindre son qui pût trahir le vif de mon éblouissement.
Énonciation du ventre arabe, poème de Rodrigue Marquez de Souza, lu par le poète.
Avant de retrouver Rodrigue Marquez de Souza, on écoute la musique d'Erkin Koray, le titre Yagmour. Erkin Koray, le titre du morceau Yegmur sur Aligre FM 93.1.
Dans la séquence suivante, le poète Rodrigue Marquez de Souza parle du lien entre la maladie et l'écriture.
Ça avait changé juste avant. Lorsque j'ai récidivé, j'étais en cours d'écriture. Je pense que dans le livre, on verra qu'il y a quand même une petite charnière où l'éclairement et l'ascendance s'est fait plus marqué. Avec des restes de l'ancienne écriture au début, peut-être dans le premier quart. Assez vite, l'intensité du songe amoureux a pris le pas sur tout. C'est aussi un songe de désir, un songe du corps, un songe de la caresse, un songe du sexe. Et cette partie-là était définitivement plus forte. Et même après, même aujourd'hui, c'est cette écriture-là qui est la plus forte. Et tant mieux. Énonciation du ventre arabe a été écrit effectivement après la découverte de mon propre ventre, hein, puisque j'ai une cicatrice de 30 cm, mais à l'époque, elle était agrafée par 59 agrafes de métal, et de manière à contourner le nombril, si vous voulez tout savoir. Et lorsque j'ai découvert, après quand même une opération de 8 heures très invasive, mon ventre, ça a été un choc. Et j'avais du temps à tenon, j'avais l'esprit vif. Et l'énonciation du ventre arabe, c'est écrit. C'est écrit simplement parce que la cicatrice forme une boucle qui peut ressembler un peu au bas arabe. Et que ça a été marquant, et qu'évidemment, avec mon amour de la culture turque, qui évidemment emploie l'alphabet arabe initialement, a participé de l'écriture de ce texte, qui était un texte de retour à la vie, de grand éclairement, d'éblouissement. Et ce qui est aussi un paradoxe. Et un texte frère s'est écrit. Un an après, lors d'une énième opération qui était une opération de réparation d'une éventration, un texte frère a été écrit, un texte qui fait un peu miroir à l'énonciation du ventre arabe, qui n'est pas encore publié, et qui a le même format, une dizaine de poèmes comme ça. douzaine de jours à Tenon et ça a été écrit pendant ce moment-là. Après, aujourd'hui, je retravaille assez peu mes textes. Je corrige des choses assez petites. J'arrive à avoir une première écriture suffisante pour satisfaire mon absence de concession. Quand on est confronté à des actes violents dans la maladie, moi je sais qu'au début j'avais vraiment beaucoup envie d'écrire. Pour le cancer, il faut parler de choses concrètes. Le cancer a un grand paradoxe, c'est que le traitement vous maltraite davantage que la maladie en elle-même. Ce qui est quand même quelque chose pour l'esprit de difficile à dépasser. On ne peut pas comprendre ça, hein, que ce qui nous sauve nous fasse plus de mal, à un certain niveau évidemment, que ce qui nous fait mourir en fait. Donc la première fois, j'ai eu envie d'écrire, je me suis un peu retenu, parce que dans les textes que j'avais lus, j'avais rien trouvé de bon. Et j'essaie d'avoir quand même dans des cas comme ça, une exigence minimum. D'en punir, il y a un texte qui s'est écrit un peu tardivement là-dessus. Pour parler de faits plus personnels, ça fait aussi 10 ans que je suis confronté, même plus de 10 ans maintenant, à la mort de façon, j'allais dire frontale, mais c'est tout de même ça. Et aussi par mon corps, à cause de mutilations, c'est un terme un peu fort, mais en tout cas de cicatrices qui sont pour le moins présentes. Et donc il faut aussi apprivoiser pour moi une présence ou une menace plutôt inhabituelle pour mon âge. Et il faut bien faire quelque chose. Et si l'écrit peut être un moyen, c'est pas le mot, mais une source d'apaisement, quelle qu'elle soit, c'est aussi bien pour vivre. Enfin, face à des actes comme ça, d'agression sur le corps, on est vraiment primitivement dans l'acte de mettre au loin la douleur. On est dans une sorte de gestion, j'utilise ce terme désagréable volontairement, une sorte de gestion de l'acte au sens presque médical quoi, du terme. Il faut juste ne pas avoir mal, il faut juste pas faire de mouvement pour pas que la cicatrice éclate, il faut pas, enfin, vous voyez, tu vois, c'est...
Bien sûr.
Et là, vraiment, c'est une sorte de réflexe primitif qui efface toute velléité de penser à autre chose. On est dans l'acte de résistance à la douleur, c'est tout. Donc, j'ai pas eu ce sentiment que mon écriture, par là, puisse être agressée. Ce qu'il est facile... de se laisser aller à une forme de tristesse, une forme de malaise très très profond. Et effectivement, l'écriture a été une aide réelle, assez simplement pour... que je n'ai pas voulu, et qui a permis d'aller à contre-courant de la douleur, du malaise... tout ce qu'un traitement chimiothérapique intense peut inclure.
Vous êtes bien sur Aligre FM 93.1 dans l'émission Version originale. Nous écoutons le poète Rodrigue Marquez de Souza. Pour bien comprendre la séquence qui va suivre et qui porte sur le rapport entre mort et création, il faut savoir qu'au commencement des entretiens, nous avons montré au poète le tableau de Rembrandt intitulé « La leçon d'anatomie du docteur Demann ». Les auditeurs peuvent voir ce tableau sur la page Facebook de l'émission. On y voit un corps ouvert. On a choisi ce tableau parce qu'il nous semblait entrer en résonance avec l'œuvre de Rodrigue Marquez de Souza.
lorsque j'ai fait lire mes premiers textes à Patrick Watteau, justement, un peu par hasard, puisqu'il habitait dans la même ville que moi et que, après tout, je ne le connaissais pas beaucoup, et qu'on nous a réunis un peu de manière artificielle, c'est une des réflexions qui m'a faite. C'est que vraiment, la mort avait une présence un peu inhabituelle pour quelqu'un de jeune à l'époque. Et je ne sais pas du tout l'expliquer. Je n'ai pas eu de traumatisme et j'en ai pas vu autour de moi qui puisse expliquer quelque chose dans ma vie personnelle qui fasse naître peut-être des hasards de lecture, peut-être des confrontations avec des œuvres peintes qui abordent ce thème-là de façon récurrente, sûrement. Mais il y a aussi le fait qu'on passe son temps à parler avec le mort, on passe son temps à voir sur soi des représentations du mort, comme dans les cultes, par exemple, de l'Ibeji chez les Yoruba du Nigeria, où les jumeaux sont sur soi, dans le tissu qui couvre la femme et qui touche le corps de la femme. On est dans une relation qui exclut presque totalement la peur en Afrique. Face à la mort. Et donc, c'est pour moi une façon assez saine de l'appréhender. Bon, on a une dominance, évidemment, judéo-chrétienne ici en Occident qui nous empêche pratiquement d'avoir la même mentalité pour aborder le sujet de la mort. Mais j'essaie d'en tirer... une sorte d'apaisement ou de, en tout cas une leçon pour la vie quotidienne même. La peur occidentale de la mort, de mourir, est vraiment très très présente quand on y réfléchit bien. Et c'est certainement un moyen de la mettre à l'écart. Je sais mal l'expliquer davantage. J'ai une conscience assez faible... de cette importance que le corps mort peut avoir dans mes écrits. Que c'est une représentation du corps qui m'a touché dès les premiers textes, ou dès les premières peintures ou dessins que j'ai vus. Il y a une extrême ambiguïté, y compris dans le corps mort, de confrontation avec le désir. Alors c'est un thème éprouvé, Eros et Thanatos. Il n'en reste pas moins que même dans la leçon d'anatomie que j'ai sous les yeux, je peux y voir quelque chose qui garde une forme de suscitation du désir. Qui n'est pas lié à la mort, que ce soit bien clair, j'ai pas de désir pour un corps mort. Je dis que l'un et l'autre peuvent cohabiter. Je dis que dans un corps qui s'abandonne dans la mort, je peux voir aussi le même corps qui s'abandonne dans le désir. Et ce sont des images, là pour le coup, qui me poursuivent encore. C'est un peu on en revient au discours de Zoran Mušić qui ne comprendra pas le paradoxe d'une beauté extrême dans une terreur extrême. Là, on est vraiment au pire du pire. Mais comment un esprit humain a pu trouver un tas de corps morts beaux ? Et nous-mêmes qui regardons les dessins de Mušić, comment pouvons-nous trouver une beauté là-dedans, puisque tout de même c'est l'image de l'extrême laideur, et pourtant non. Donc le peintre réussit une forme de... Il réussit à transcender par le trait, par la composition, par les valeurs, le pire que l'humanité puisse créer. Et c'est quand même exceptionnel. C'est pas celui de Rembrandt qui m'a le plus touché quand j'ai découvert Rembrandt jeune. C'est plutôt Le Bœuf écorché. Évidemment à cause de Francis Bacon. Celui-ci, La leçon d'anatomie du docteur Johan Demann, je le trouve beau, je trouve sa composition intéressante, évidemment, mais il est, pour celui que je suis aujourd'hui, un peu morbide. Et il ne correspond pas à l'image du corps que j'ai à l'esprit aujourd'hui. Enfin, dans la traduction au moins que je connais, ou que les Africains nous laissent connaître, là, c'est pour exposer le mort, c'est-à-dire pour communiquer avec le monde des vivants, et aussi, parfois, pour nourrir le mort, afin que son esprit reste vivant. J'imagine que ce sont des intentions qui peuvent être présentes dans certains de mes écrits. Je suis très marqué, moi, par la présence du mort dans les traditions africaines et dans les religions de beaucoup, beaucoup d'ethnies africaines est tout à fait différente de nos traditions occidentales. Il y a vraiment un accompagnement de la représentation du mort. On a vraiment une appréhension du mort et de la mort très très différente et à mon sens beaucoup plus saine en Afrique qu'en Occident. Et même si dans mes écrits, sous le regard occidental, ça peut être mal interprété, en tout cas, moi, je l'utilise d'une manière assez positive, finalement. Sacré a donné des œuvres qui sont tellement fortes qu'on peut tout à fait en saisir l'intensité sans être croyant. Surtout dans la chrétienté où il y a des images, des représentations qui sont vraiment dans le corps. Pour les musulmans, c'est tout à fait différent puisque dans la représentation, bien qu'on ait malgré tout ce qu'on dise, ce qu'on veuille faire croire, pas mal de représentations humaines, c'est vraiment dans l'écrit, et bon, c'est encore un autre sujet, mais dans la dissidence qu'on va trouver les œuvres du sacré les plus intenses. En tout cas, pour la chrétienté, on a des siècles de représentations de corps nus, de peau, de plaies, sur des œuvres qui sont d'une grande, grande intensité, donc qui frappent. Voilà. Après, sur le plan de la matérialité, je crois encore aujourd'hui que le corps humain est vraiment beau. Y compris la forme de l'organe, que j'utilise beaucoup en peinture, y compris la forme des os, tout bêtement, vraiment au sens purement matériel. Un os, je trouve beau. La forme du cœur est vraiment très belle. Voilà, c'est un deuxième élément pour comprendre pourquoi le corps, abîmé ou désirable, exerce toujours la même fascination sur moi. J'espère que ça ne s'éteindra pas. En tout cas, aujourd'hui, dans l'écriture, ça ne s'éteint pas, ça, c'est sûr. Dans la peinture, non plus, je crois.
La voix du poète Rodrigue Marques de Souza. Ces entretiens ont été réalisés au printemps 2017. Nous vous invitons à vous rendre sur la page Facebook de l'émission, version originale, pour avoir des références et des précisions sur les écrivains et les peintres évoqués au cours de ces entretiens. Et samedi prochain, vous retrouverez la suite de nos échanges avec Rodrigue Marques de Souza. Charlie et moi, nous remercions très chaleureusement Philippe Benkimoun qui a réalisé l'enregistrement de ces entretiens ainsi que le montage des différentes séquences que vous avez pu écouter. La suite de nos programmes sur Aligre FM ce soir à 21h Dancehall Reggae Vibe, à 22h30 Audiométrique. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain à 19h pour la suite donc, de nos entretiens avec Rodrigue Marques de Souza. Version originale, une émission de Charlib et Patrick Léon-Émile, réalisée ce soir en studio par Gilles Brézard. Merci Gilles, bonne soirée, bon week-end, à la semaine prochaine. Wasn't no means of intervention. A dollar bill will make 110 yen, son. How much you willing to sacrifice to win, huh? I personally done paid mines and then some. Climbed up an inch at a time. Now who the Zen one? If not self, who else could you?